Les blockbusters de Frédéric Sigrist. Maintenant, je vous sens fatigué ce matin, Frédéric.
Oh, décidément, Mathilde, vous avez la pertinence du trésor public. On ne peut rien vous cacher. Franchement, je ne sais pas comment vous faites, Mathilde, pour chaque matin, vous êtes sur le pied de guerre à annoncer des horreurs à des auditeurs qui n'ont, pour la plupart, même pas encore bu un café.
Et ouais.
C'est la petite claque qu'on met sur le derrière des nouveau-nés pour les faire pleurer. Vous savez comment on appelle ça chez les puéricultrices ? Le 5-7. Parce que, franchement, je sais pas comment vous faites, l'actualité va tellement vite. Vous vous rendez compte que l'année dernière, à la même époque, on était dans un autre monde. La cérémonie des Césars avait fait scandale, on attendait la sortie du dernier James Bond et de Black Widow au cinéma, les services de réanimation étaient au bord de la saturation, on critiquait la gestion du gouvernement, on se demandait tous si le président allait confiner le pays ou non, alors qu'aujourd'hui, pareil en fait. Techniquement, on n'a pas bougé. Alors je sais pas, mais en général, quand tu fais une balade en forêt et qu'après avoir marché pendant un an, tu te retrouves devant le même arbre et le même rocher, je crois qu'on peut dire que tu t'es perdu. Hein, Jean Castex, tu sens bien qu'il a l'orgueil mal placé du daron qui veut pas dire qu'il sait pas lire une carte. Néanmoins, même si depuis un an on fait du surplace, j'ai le sentiment qu'intérieurement, on a tous un peu changé. Moi j'ai des amis, il y a un an, ils faisaient du pain, l'école à la maison, ils faisaient chien tête en bas, chien tête en haut en regardant des vidéos de yoga. Ils envisageaient de quitter leur job pour se lancer dans la permaculture. Aujourd'hui, tu les écoutes ? Frédéric, je vais te dire, on vaccine tout le monde avec le premier vaccin qu'on trouve, russe, chinois, AstraZeneca, Lidl ou Leaderpie, je m'en fous ! Et le premier petit vieux qui veut pas, on l'enferme ! En un an, il y a des gens, ils sont passés de Caroline Ingalls à Jack Bauer. Vous vous souvenez de Jack Bauer ?
Oui.
À ce moment précis, des terroristes menacent d'assassiner un candidat à la présidence. Ma femme et ma fille ont été enlevées. Et il semblerait que des personnes avec lesquelles je travaille soient impliquées dans ces deux affaires. Je m'appelle Jack Bauer, je suis agent fédéral. Et la journée que je vais vivre va être la plus longue de ma vie.
Jack Bauer, pour resituer, c'est cet agent de la cellule antiterroriste de Los Angeles qui avait toujours 24 heures pour empêcher l'explosion d'une bombe nucléaire, sauver le président, résoudre le conflit israélo-palestinien, retrouver sa fille et refaire le carrelage de sa salle de bain. Tout ça, la vessie pleine. La force, et même, je dirais, la perversité de cette série, c'est qu'elle embarquait Jack Bauer et le spectateur dans une telle situation de crise qu'on en venait à comprendre et même à justifier les méthodes expéditives de Jack Bauer. Par exemple, je schématise, mais si pour empêcher une bombe nucléaire d'exploser, Jack Bauer devait abattre un bus rempli de bonnes sœurs, bon bah on sait que les nonnes n'étaient pas dans la saison d'après. Hein. C'est une série qui mettait sans cesse le spectateur en face de ce fameux facteur bénéfice-risque. Jack Bauer, lui c'est sûr, il aurait continué de vacciner à l'AstraZeneca. Hein. On aurait eu beau lui dire « Écoute Jack, il y a un très faible pourcentage de chances que ça provoque la formation de caillots de sang. Damn it ! Bon, on s'en fout, on prend le risque !» Parce qu'il est comme ça, Jack, il est dans un contexte d'urgence. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Mais la pop culture nous met aussi en garde contre ce fameux facteur bénéfice-risque. Par exemple, dans la série Game of Thrones, faire appel à Daenerys et ses dragons pour vaincre les marcheurs blancs, ces zombies venus du froid, ça semblait au départ une très bonne idée. Le même genre d'idée qui a poussé les États-Unis à financer et à armer les Moudjahidines afghans contre les Russes en pleine guerre froide. Moudjahidines, parmi lesquels il y avait Oussama Ben Laden. Bon, bah, on connaît la suite. Dans Avengers 2, oui, j'ai le droit de parler d'Avengers depuis que Marlène Schiappa cite Spider-Man. J'ai le droit de parler de géopolitique. Iron Man, Tony Stark. Alors, je sais que je vous perds un petit peu, là, Mathilde.
Beaucoup.
Tony Stark, c'est Murray dans la série Riptide, mais chez les super-héros. Bon, bah, Tony Stark...
Voilà, il me faut des références que
voilà,
je connais, un peu moisi.
J'ai pensé à vous. Tony Stark crée Ultron, une intelligence artificielle qui est censée protéger la Terre plus efficacement contre l'invasion de l'armée de Thanos. Ultron se révolte contre son créateur et tente d'anéantir toute forme de vie organique. Eh bien, regardez aux Antilles. Le chlordécone, un pesticide très dangereux, devait initialement faire disparaître le charançon, un insecte qui menaçait les plantations de bananes. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Terre est contaminée pour plus de 700 ans et ses départements enregistrent le plus fort taux de cancer de la prostate. Dans Matrix, qui parle lui aussi d'une guerre entre humains et machines, il est intéressant de voir qu'initialement, les machines tentent de faire la paix avec les humains en leur envoyant des ambassadeurs. C'est ce qu'on voit dans le dessin animé Animatrix, la seconde renaissance réalisée par Mahiro Maeda. Ce sont les humains qui refusent la main tendue par les machines et qui décident de les priver de l'énergie en obscurcissant le ciel. Dans Matrix, si le futur est aussi apocalyptique, on a tendance à l'oublier, ce n'est pas la faute des machines qui n'ont fait que s'adapter, mais la faute des hommes. Trois œuvres de pop culture, trois exemples de mesures où les risques ont pris le pas sur les bénéfices. Ce que la fiction tente de nous enseigner, Mathilde, c'est qu'en temps de crise, il faut résister à la précipitation et ne pas faire des solutions d'aujourd'hui les problèmes de demain.
Et on va terminer sur cette réflexion. On va cogiter tout le week-end et on revient lundi. Merci Frédéric Sigrist. Dites Frédéric, vous n'avez pas fait un podcast encore ?
Exactement, il est sorti hier sur les jeux From Software, c'est-à-dire Dark Souls, Bloodborne. C'est des jeux incroyablement difficiles, mais jouissifs, parce qu'on n'a pas droit à l'erreur.
Sinon quoi, on meurt ?
Oui, exactement.
Ah.
Et on est renvoyé au début, il faut tout recommencer.
C'est sympa en ce moment, on a un bon esprit quoi avec l'ambiance.
Mais justement, c'est une catharsis.
C'est le podcast Blockbuster. Merci beaucoup Frédéric Sigrist. France Inter.